tu te révèles à nous. C'est toi qui connais toutes choses et c'est toi qui fais connaître à ton peuple ce qui doit arriver dans la suite des temps, ce qui se passe vraiment maintenant derrière les coulisses. Et nous te prions de nous éclairer quant au sens de ta parole maintenant et que tu nous parles puissamment au nom de Jésus. Amen. Les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas? Si on roulait en France la semaine passée et on voyait des hommes et des femmes en gilets jaunes, on aurait pu penser, voilà, c'est la police. Ils vont vérifier nos documents, des choses comme ça, mais on se tromperait. Et c'était des gens qui manifestaient contre le gouvernement, qui ne vont pas laisser passer les voitures pendant des heures. Les apparences peuvent être trompeuses. Nous, on balade à Louvain-la-Neuve, on veut aller habiter là-bas hier, et on a vu sur un panneau une four à pain. Et on a vu, waouh, on va aller voir ça, les enfants, ils vont adorer ça, de voir comment on fait du pain pour du vrai. Et on est arrivé, c'était pas du tout ça. C'était un genre de salle de concert pour les jeunes. Et donc on était un peu déçus, les enfants étaient moins intéressés. Du coup, les apparences peuvent être trompeuses dans la vie, n'est-ce pas? Et cela est vrai dans le domaine spirituel aussi. Lorsqu'on regarde autour de nous, on a l'impression que Dieu est absent, qu'il est en train de perdre la puissance dans ce monde. Lorsqu'on voit ce que les hommes font partout dans le monde, lorsqu'on voit la persécution au Pakistan avec la sœur Asia Bibi qui a été libérée, mais elle n'a pas pu quitter le pays de peur de la violence des islamistes. La Cour européenne des droits de l'homme a décidé récemment que si on blasphème contre le prophète Mohammed, c'est contre la loi. On n'a pas la liberté de faire cela. Mais si on blasphème contre Jésus, on a toute la liberté du monde pour faire cela. Et on se dit, mais Dieu, où est-ce qu'il est dans tout cela? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a perdu le contrôle dans son monde? Et nous, ici, une petite poignée de personnes, on se rassemble pour écouter un vieux livre. Et peut-être dans le quartier européen, il y a un sommet important, les chefs d'État se réunissent pour parler avec le chef britannique pour parler du Brexit. On pense, voilà, c'est là où se passe la vraie action. C'est là où c'est important. Ici, qu'est-ce qu'on fait ici finalement? Qu'est-ce qu'on fait? Les apparences peuvent être trompeuses. Et nous allons voir cela dans ce chapitre de Daniel. Le roi Nabucodonosor, il a la gloire, la grandeur. Et Dieu paraît faible, impuissant. Le peuple est en exil, rappelons-nous, le roi de Babylone est venu chercher tous les meilleurs hommes du pays pour les prendre loin de chez eux. Daniel et ses amis se trouvent en Babylone, loin de chez eux. Ils ont dû subir une reprogrammation, on a vu ça. Babylone a voulu effacer toute trace de leur ancienne foi dans le Dieu d'Israël et voulait les reformater pour être des citoyens loyaux de Babylone, pour louer les faux dieux. Mais malgré les apparences, Dieu règne. Malgré les apparences, Dieu règne. Et c'est ça ce que nous allons voir dans le rêve de Nabucodonosor aujourd'hui. Nous voyons qu'il est troublé, versets 1 et 2, il a fait un songe durant la nuit et il s'est réveillé troublé. Peut-être ça vous est arrivé, vous réveillez en sueur après un songe. Mais ici c'est quelque chose de plus dramatique. Il fait appel, verset 2, aux magiciens, aux astrologues, aux enchanteurs et les chaldéens. Il rassemble tous les sages de son royaume pour qu'il lui explique le songe. Et peut-être pour qu'il pratique la magie, pour contrecarrer le songe, si cela annonçait de mauvaises nouvelles pour lui. Les sages disent au verset 4, « Dis le songe à tes serviteurs, nous en donnerons l'explication. » Peut-être ils sont habitués, le roi fait un cauchemar, il leur demande de venir apporter une explication. Il leur raconte le songe et il regarde dans les manuels d'interprétation de songe et ils disent ce que cela signifie. Mais cette fois-ci, le roi a marre de ces tactiques, de ces sages. Et au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Les choses deviennent plus compliquées. La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons sont réduites en un tas d'immondices. Aïe, aïe, aïe. Non seulement ils doivent trouver l'explication du songe, mais ils doivent se balader dans la tête du roi pour voir ce qui s'est passé durant la nuit, chose impossible pour les hommes. Et c'est exactement ce qu'ils disent au verset 11, verset 10 et 11, n'est-ce pas? Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, ou si jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Il est tout à fait impossible ce que tu nous demandes, disent-ils. Seulement les dieux pourraient faire cela, mais les dieux ne sont pas parmi les hommes. Le roi ne réagit pas bien à cela, et dans une fureur violente, il ordonne qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Et cela comprend Daniel et ses amis, qui étaient au service du roi, les jeunes adolescents judéens. On peut peut-être imaginer la surprise de Daniel, il se lève, c'est un jour normal, il se prépare pour aller au travail, et puis tout d'un coup, la police frappe à la porte, l'arrête brusquement, et l'emmène vers le lieu d'exécution. Alors Daniel parle à Arioch, le chef chargé de le mettre à mort, et il demande pourquoi la sentence du roi était si sévère. En gros, que s'est-il passé pour que le roi nous rassemble tous pour nous mettre à mort? Arioch lui explique la situation, et Daniel se rend ensuite pour voir le roi. Verset 16, il prie de lui demander d'accorder du temps pour donner au roi l'explication du songe. Le roi lui accorde du temps, et tout de suite il appelle ses amis pour qu'ils prient. Verset 18. Il les engage à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et au verset 19, Dieu a répondu à leur prière. Et le mystère, le contenu du rêve fut révélé à Daniel durant la nuit. Et Daniel comprend que cela n'est pas venu de son intelligence ni de sa sagesse humaine. Il bénit le Dieu des cieux. C'est grâce à lui qu'il connaît maintenant le contenu du songe qui sauvera la vie à tous les fonctionnaires de Babylone. Et on pourrait imaginer qu'il allait tout de suite voir le roi pour lui expliquer son songe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Versets 19 et 20. Il s'arrête et bénit Dieu. Et juste entre parenthèses, trop souvent, je pense en tant que chrétien, Dieu exauce nos prières, mais on est tellement content de l'exaucement que nous ne prenons pas le temps de remercier à Dieu, de s'arrêter, de remercier Dieu. Mais Daniel prend le temps de bénir Dieu, non seulement pour ce qu'il a fait pour lui, mais pour qui il est. Verset 20. « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. » Il bénit Dieu car il est celui qui contrôle l'histoire humaine. Daniel est persuadé que c'est Dieu qui gère le monde. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il décide de toutes circonstances de la vie. C'est lui qui décide qui va régner, à quel moment. Il renverse et il établit les rois. Dieu gère son monde. Daniel bénit Dieu pour sa maîtrise de la vie. Et non seulement Dieu contrôle le monde et l'avenir, mais il révèle cela à son peuple. Le verset 21 continue. C'est lui qui change les temps et il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu révèle ce qui est profond, ce qui est caché aux humains. Le contenu du songe du roi est bien caché aux hommes, mais rien n'est caché du regard de Dieu. Et dans verset 23, Daniel loue Dieu, Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Daniel reconnaît que la révélation vient de Dieu et il le loue. Et il va voir Arioch de nouveau pour lui dire de ne pas mettre à mort les sages de Babylone. Il demande une rencontre avec le roi et Arioch le conduit promptement vers lui. Le roi lui demande, verset 26, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Et 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. » Nous avons vu cela, n'est-ce pas? Les sages babyloniens étaient entièrement incapables de faire connaître le songe au roi. Mais, dit Daniel au verset 28, c'est un verset clé dans le chapitre, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel dit clairement devant ce roi, le roi qui ne croyait pas en Dieu, que ce qu'il va dire vient de Dieu, du Dieu qui est dans les cieux, qui règne. Quel courage de la part de Daniel. Le songe concerne ce qui va venir dans la suite du temps. Et puis Daniel explique au verset 31 à 35 le contenu du songe. Peut-être on peut voir l'image dans l'autre PowerPoint en suivant cela, verset 31 à 35. On va essayer d'imaginer ça, le songe qu'a fait Nebuchadnezzar. Voilà, magnifique. Alors, moi je vais lire et vous pouvez regarder. Au roi, verset 31, tu regardais, tu vois une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Et les parties différentes de la statue furent construites de matériaux différents. La tête en or, la poitrine et les bras, magnifique, cool, merci, en argent, son ventre et ses cuisses, ici en airain, ses jambes, fer, et ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Et puis, verset 34, si on peut regarder cela, verset 34, une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse statue et une pierre qui vient détruire tout. Et à la fin du verset 35, on voit que la pierre devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Mais qu'est-ce que cela veut dire ça? Le roi est troublé. Il voit une statue, peut-être il pense que c'est lui, le roi, la statue, et il sera écrasé. Peut-être il a peur. Mais Daniel explique la vision. La tête d'or, ça c'est Nebuchadnezzar. Ça c'est le roi de Babylone. Son royaume est glorieux. Il domine sur énormément de gens. Mais après lui viendra un autre royaume, moindre que le royaume du roi Nebuchadnezzar. La poitrine et les bras sont d'argent. Merci. Ensuite, il y aura un troisième royaume, d'airain, qui dominera sur toute la terre. Ensuite, un quatrième royaume, les jambes de fer. Ce royaume brisera et rompra tout. Et ce royaume sera divisé, la forme sera mélangée avec le faible. C'est ça ce qu'on voit au pied. Le fort et le faible sont mélangés ensemble. Et puis au verset 44, qu'est-ce que nous voyons? Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est la pierre qui se détache, qui détruit toute la statue et qui devient une grande montagne pour remplir la terre. Il y a quatre royaumes et puis il y a un royaume éternel. Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et donc, comment est-ce que le roi réagit à cela? Normalement, il aurait dû s'humilier. On va voir par la suite les quatre royaumes, ce sont les royaumes des humains, et la pierre qui vient tout détruire pour devenir un royaume éternel, c'est le royaume de Dieu. Les royaumes humains sont fragiles et temporaires, mais le royaume de Dieu est indestructible et éternel. Et qu'est-ce que le roi aurait dû faire face à l'annonce du règne de Dieu? Mais il aurait dû s'humilier devant ce roi. Il aurait dû se repentir, changer d'attitude, croire dans ce Dieu-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Verset 26, il a offert des sacrifices devant qui? À qui? À Daniel. Pas à Dieu, mais à Daniel. Verset 47, il dit, « Votre Dieu, Daniel, est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il révèle des secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Donc, il commence à comprendre des choses sur Dieu, mais ce n'est pas encore son Dieu à lui. Et peut-être c'est possible d'être dans une salle comme la nôtre, de comprendre les choses sur Dieu sans qu'on ait cru personnellement dans ce Dieu, sans que l'on puisse dire « mon Dieu ». Et peut-être ça c'est vrai pour vous. Et verset 48, il élève Daniel et ses amis jusqu'aux plus hautes fonctions du pays. Il semble être plus content qu'il ne sera pas détruit qu'autre chose. Il n'est pas content de connaître ce Dieu qui va régner éternellement. Donc voici l'histoire. Un roi troublé par un songe dont les sages sont incapables de lui faire connaître. Le Dieu de Daniel fait connaître le songe, dans lequel Dieu montre que les royaumes des hommes sont fragiles et temporaires, et que c'est son royaume, le royaume de Dieu, qui durera éternellement. Mais qu'est-ce que nous devons retirer de cette histoire pour nous au 21e siècle? Nous avons deux leçons à tirer. L'une concerne la révélation de Dieu et l'autre le royaume de Dieu. Premièrement, prêtons attention à la révélation de Dieu qui confond la sagesse de ce monde. Prêtons attention à la révélation de Dieu qui confond la sagesse de ce monde. Nous voyons dans ce passage que c'est Dieu qui sait révéler les mystères, mais les sages babyloniens sont tout à fait incapables de révéler quoi que ce soit. Et ça nous apprend qu'en dehors de Dieu, il est impossible de connaître la vérité sur cette vie. L'homme ne connaît pas tout. En fait, l'homme connaît très peu de choses. On se vante parfois dans les milieux scientifiques de tout ce que l'on sait. Mais en fait, on connaît très peu. Quel est le sens de la vie? Mettez 10 scientifiques dans une pièce pour parler de ça. Ils ne vont pas pouvoir vous donner une réponse. Où va l'humanité? Sans la révélation de Dieu, les hommes ne savent rien de tout cela. Les religions non chrétiennes n'ont pas accès au sens de la vie, à la connaissance de là où va l'humanité. Mais nous voyons ici que le Dieu de la Bible est un Dieu qui révèle ce qui se passe. Et nous connaissons un Dieu qui se révèle à nous, qui nous dit c'est quoi le sens de la vie. Glorifier notre Créateur, accepter son salut en Jésus-Christ. Il nous dit où va l'humanité, vers le jugement final, un royaume éternel et l'enfer. Nous connaissons le sens de l'histoire, mais seulement parce que Dieu nous le révèle. Quel privilège de connaître ce Dieu qui nous dit la vérité sur la vie, sur nous-mêmes, sur lui-même, sur la vie après la mort. Si nous sommes chrétiens, nous connaissons ce Dieu qui coordonne l'histoire et qui nous révèle ce qui se passe. Non pas dans les rêves et les visions, mais par sa parole dans la Bible. C'est dans la Bible que Dieu nous parle. Et donc, est-ce que nous prêtons attention à la révélation de Dieu? C'est là où nous voyons le vrai sens de la vie. Je pense que ça doit être terrible de se lever le matin, de vivre la journée, de se coucher le soir sans connaître le vrai sens de l'existence humaine, sans connaître où va notre monde, sans connaître le Créateur. Quel privilège si nous avons ce livre qui nous révèle Dieu tel qu'il est et son monde tel qu'il est vraiment. Et non seulement Dieu se révèle dans la Bible, mais aussi dans la personne de son Fils. Vous avez remarqué le verset 11, peut-être. Et les sages babyloniens, ils ont dit, « Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Et on se dit, mais nous connaissons un Dieu qui a fait sa demeure parmi les humains. Dieu, dans la personne son Fils, est venu dans notre existence humaine. Il est venu sur la terre. Jésus-Christ a pris sur lui la nature humaine. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire d'un Fils unique. Dieu se révèle parfaitement en Jésus-Christ. Si nous voulons savoir comment est Dieu, il nous faut regarder à Jésus. Si on se pose des questions sur qui est Dieu, il faut faire connaissance de Jésus-Christ. Et nous voyons aussi dans ce chapitre que Dieu confond la sagesse de ce monde. Tous les magiciens, astrologues, étaient tout à fait incapables de faire connaître le songe au roi. Et pour finir, c'est Daniel, l'adolescent judéen, qui ne croit pas dans les dieux babyloniens, qui donne l'explication du rêve. Et Dieu œuvre souvent comme cela, en confondant la sagesse de ce monde. En Corinthiens chapitre 1, Paul dit ceci, « Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ, crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Si on mettait tous les philosophes, tous les chefs religieux, tous les savants du monde dans une pièce pour parler de comment entrer en relation avec Dieu, ils n'auraient jamais la bonne réponse. Dieu confond la sagesse de ce monde en sauvant les pécheurs par un homme cloué à la croix. Seul Dieu connaît toutes choses. Seul lui peut nous faire connaître la réalité telle qu'elle est vraiment. Nous devons prêter attention à sa révélation, révélation qui confond la sagesse de ce monde. Mais quel est le message de cette révélation? Ça, c'est la deuxième leçon que nous allons apprendre ce matin. Mettons notre confiance dans le royaume de Dieu et non pas dans le royaume des hommes. Le rêve que Dieu a donné au roi Nebuchadnezzar nous enseigne deux choses. Les royaumes des humains sont fragiles et temporaires, et que c'est Dieu qui va régner éternellement. Verset 37, si on peut voir cela, on voit que le roi est seulement roi parce que c'est Dieu qui lui a donné d'être roi. Il est entièrement entre les mains de Dieu. Tous les dirigeants de ce monde sont entièrement entre les mains de Dieu. Même s'ils se proclament en disant qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ils sont seulement là parce que Dieu les a placés là-bas. Et le fait qu'il soit roi ne devrait pas le gonfler d'orgueil, ce devrait davantage le rendre humble devant Dieu et reconnaissant. Et même s'il est roi pour l'instant, le verset 39, il y a deux mots juste au début de la phrase, verset 39, deux mots qui devraient vraiment bouleverser l'esprit de roi Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que Daniel dit? Après toi. Après toi. Il y aura un après Babylone. Il y a eu un après Babylone. Ce grand roi sera un jour dans un tombeau et quelqu'un d'autre sera assis sur son trône. Les royaumes humains sont comme ça. Nous pensons que les grands dirigeants vont rester ou les grands empires vont rester, mais ce n'est jamais le cas. Et cela veut dire que nous ne devons pas placer notre espoir dans de tels royaumes. L'empire britannique a disparu. Et les Britanniques doivent croire cela. L'Union européenne ne va pas exister définitivement. Je suis désolé de dire ça à Bruxelles. Est-ce qu'on est en train de témoigner de la fin de l'Union européenne? On ne sait pas. Mais cela ne va pas durer éternellement. Et ce n'est pas dans l'Union européenne qu'il faut espérer. C'est dans le Dieu qui règne éternellement. Si on va parfois dans les musées de l'Union européenne ou du Parlement européen, on a l'impression que c'est l'Union européenne qui a sauvé le monde. C'est dingue. Avant-guerre, hostilité, l'Union européenne, paix, harmonie et tout le reste. Et je ne doute pas qu'il y a eu beaucoup de bienfaits positifs de l'Union européenne, mais il ne faut jamais placer son espoir dans les royaumes humains. Les États-Unis, un jour, ne seront plus la superpuissance qu'ils sont actuellement. L'Empire romain n'est plus, l'Empire babylonien n'est plus. Comme a dit Daniel, Dieu renverse et établit les rois. Les dirigeants humains ne sont que temporaires. Ils sont là seulement parce que Dieu les a établis. Ils semblent si puissants, mais ils ne le sont pas vraiment. Arrêtons de placer notre confiance dans les royaumes humains. Et cela nous libère, n'est-ce pas, en tant que chrétien, parfois nous avons peur d'aller au contre-courant de la société, car la société est tellement puissante. On ne veut pas aller au contre-courant de ce que les gens disent sur Twitter ou ce que la Cour européenne des droits humains déclare. Mais si nous avons compris le chapitre 2 du livre de Daniel, nous savons que les royaumes des hommes passeront tous. Ne craignons pas les dirigeants, car ils ne sont pas ultimes dans ce monde. C'est Dieu qui règne éternellement. Et c'est un royaume, le royaume de Dieu, qui a commencé de manière très humble. Verset 34, nous avons vu que c'est une pierre. Tout a commencé avec une pierre. Comparé à l'or, l'argent, l'airain, le fer, qu'est-ce qu'une pierre? Mais cela a tout détruit. humblement, Dieu est venu dans son monde, dans la personne son fils. Personne n'aurait remarqué. Un bébé qui est né dans une crèche. Mais c'est lui qui règne éternellement, qui va juger chaque être humain. Et à la fin de l'histoire, ce sera comme la grande montagne qui remplit toute la terre. Le royaume de Dieu est indestructible et éternel. Le royaume de Dieu n'aura jamais de fin. Et Jésus va un jour revenir écraser tous ceux qui se sont opposés à lui. Et lors de sa première venue, Jésus a annoncé la bonne nouvelle, Marc 1,15. Il dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. » C'est-à-dire, le royaume de Dieu est arrivé parce que moi, le roi, je suis là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Son royaume a été inauguré lors de sa première venue. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous repentir. Nous devons faire demi-tour, arrêter de vivre pour nous-mêmes. Et nous devons courber le genou devant Jésus en tant que roi. Est-ce que vous avez fait cela? Avez-vous pris conscience que Dieu va régner éternellement? Qu'il faudra un jour fléchir le genou devant lui, soit de bon gré maintenant, ou soit contre notre volonté, en quelque sorte, lors du jugement dernier. Il faut arrêter de vivre en rébellion contre lui. Mais si nous avons placé notre confiance en Dieu, dans son Fils Jésus, quel réconfort de savoir que c'est Dieu qui régnera éternellement. Nous ne devons pas craindre ceux qui tiennent le pouvoir actuellement. Un jour, ces autorités ne seront plus. Bénissons Dieu pour son royaume, soumettons-nous à son règne et prenons courage. Combien ce songe a dû fortifier la foi de Daniel et de ses amis? Parce que malgré les apparences, c'est Dieu qui règne. Et pour nous, de même, à Bruxelles, malgré les apparences, c'est Dieu qui règne et qui règnera éternellement. Et nous pourrons régner avec lui. Le monde nous essaie de faire croire que ça ne vaut pas la peine de vivre pour Dieu. Et ce chapitre nous montre que c'est la meilleure chose à faire. Prions ensemble pour terminer. Notre Père, nous louons pour qui tu es, le Dieu des cieux. Nous te louons parce que tu existes, que tu es glorieux. Nous te louons parce que tu connais toutes choses. Tu règnes dans ce monde. Et merci parce que tu nous fais connaître le sens de la vie. Comment être sauvé de nos péchés par la mort de ton Fils. Merci parce que tu nous révèles comment être avec toi pour l'éternité. Et merci parce que tu nous révèles que tu es le roi et que tu es sur ton trône. Et tu le seras éternellement. Donne-nous de ne pas mettre notre espoir dans les royaumes humains, mais donne-nous de ne pas craindre les autorités, parce qu'elles passeront. Et donne-nous de vivre pour toi dans ce monde, sachant que tu règnes, malgré les apparences. Au nom de Jésus. Amen.